8h42, le journal des sports avec Victor Misistrano. Victor, de nombreux grands noms du football africain sont attendus ce soir à Marrakech où le trophée de joueur de l'année va être décerné.
Alors, qui succédera au Nigérian Victor Osimhen? Son coéquipier vice-champion d'Afrique Ademola Lookman est favori. On garde en mémoire son triplé sensationnel en finale de la Ligue Europa remporté avec l'Atalanta Bergame. Le Guinéen Serou Guirassy a lui aussi de bons arguments. Il s'est affirmé cette année comme l'un des meilleurs buteurs en Europe. Les autres candidats sont le jeune Ivoirien Simon Adingra, vainqueur de la CAN avec les éléphants, le Marocain du PSG, Achraf Hakimi, et enfin le Sud-Africain Ronwen Williams, gardien des Mamelodi Sundowns. Une chose est sûre, Andréane, le vainqueur sera inédit.
Et même chose pour la lauréate.
Azizat Ochoala ne remportera pas de quatrième couronne consécutive. Une autre Nigériane postule, la gardienne du Paris FC, Chiamaka Nnadozie, tout comme la Zambienne Barbara Benda, deuxième l'an passé, et l'attaquant marocaine Sana Msoudi. Début de cette cérémonie des CAF Awards à 18h temps universel.
Et à 8h10 temps universel tout à l'heure, Juan Gomez attend vos pronostics dans Appel sur l'actualité. Restez à l'écoute d'RFI. Toujours en football, il y avait de la Ligue des Champions hier, deux rencontres de la troisième journée de la phase de groupe.
Et les Mamelodi Sundowns ont dominé le Raja Casablanca 1-0. Les Sud-Africains reviennent à hauteur de la AS FAR de Rabat en tête du groupe B. Dans le groupe D, toujours pas de victoire pour le Djoliba de Bamako, 0-0 dans le duel des mal classés face aux Angolais de Sagrada. De son côté, le Stade malien joue à l'échelon inférieur en Coupe de la Confédération. Défaite 1-0 hier à Berkane, le club marocain qui est la seule équipe à avoir remporté ses trois matchs de C2. Pour sa part, la SEC d'Abidjan a concédé sa toute première défaite face à l'USMA. Les Ivoiriens se sont fait surclasser à Alger 3-0. Écoutez la réaction de leur entraîneur Julien Chevalier.
Déçu du résultat parce qu'on espérait repartir d'ici avec quelque chose de positif, mais on n'a pas su faire ce qu'il fallait. On a fait de bonnes choses, mais on manque un peu trop d'expérience. On le savait en venant ici. Et ça s'est malheureusement confirmé sur des situations importantes qui ont fait basculer bien trop vite le match, alors qu'on avait plutôt bien démarré, on était bien en place. On a le premier tiers du match sur le poteau. Il y a quelques secteurs où on a eu un répondant intéressant, et puis d'autres où on a été trop défaillant. On a quand même donné les deux premiers buts. Donc à ce niveau-là, ça rend les choses trop difficiles. Donc c'est dommage. Après, on verra au match retour.
Propos recueillis par Molamine Sissavané. Match retour début janvier. En attendant, la SEC reste deuxième du groupe avec 4 points. Car derrière, le Jaraf de Dakar et les Botswanais de Rapa United n'ont pas réussi à se départager. Le club sénégalais boucle cette phase aller de la Coupe de la Confédération avec 2 nuls et une défaite. Le directeur sportif du club, Cheikh Sidiba, donne son analyse après ce match nul de Jaraf.
C'était un match où on n'a pas eu trop de difficultés, un match qu'on a maîtrisé, c'est encore jouable, on va se préparer et essayer d'aborder ces deux matchs qui suivent où on va recevoir au Rapa le 5 janvier à Gamiadjo et tout de suite après, une semaine après, la SEC d'Abidjan, on va essayer d'en faire deux finales. Il faudra empocher 6 points et se replacer dans le groupe. Et on va faire tout notre maximum pour se qualifier pour les quarts de finale.
Des propos recueillis par Babacar Fall. Et puis à Dakar, justement, Andréane, la Ligue africaine féminine de basket s'est terminée hier par la victoire du Ferroviario Maputo, les Mozambicaines qui ont battu les Égyptiennes d'Al Ahly en finale 81-72.
Victor Misistrano, on reste à Dakar tout de suite. Le Sénégal, où l'Institut Pasteur célèbre cette année ses 100 ans d'existence sur le continent africain. Si l'Institut s'est démarqué il y a un siècle avec la fabrication du vaccin contre la fièvre jaune à Dakar au Sénégal, aujourd'hui le centre de recherche se lance dans la fabrication d'autres vaccins contre le Covid-19, mais aussi contre la maladie infantile de la rougeole et de la rubéole, et plaide pour une plus grande autonomie vaccinale du continent. À Dakar, le reportage de notre envoyée spéciale permanente, Léa-Lisa Vesteroff.
Badge et accès sécurisé, bienvenue sur la plateforme de développement du vaccin de la rougeole et de la rubéole de l'Institut Pasteur. Dans l'espace vitré, deux bioréacteurs, l'un pas plus gros qu'un robot de cuisine avec des pipettes à l'intérieur. Neymar Emba coordonne la fabrication du vaccin.
En fait, c'est une culture cellulaire. Une fois qu'on a assez de cellules, on infecte et cette infection-là permet aux cellules de produire le virus atténué.
Virus atténué qui devient ensuite le vaccin. 1,8 million de doses peuvent être produites dans cette machine en 6 heures. Et pour la première fois, le vaccin contre la rougeole et la rubéole va être entièrement fabriqué au Sénégal. Neymar Emba.
C'est pas seulement le vaccin en tant que tel, mais les gens qui sont impliqués dans le process. Tout est également fait de façon locale.
La cinquantaine de chercheurs qui développent l'antidote contre la rougeole viennent toutes du continent, mais des essais sont également en cours pour mieux adapter ce vaccin aux contraintes africaines, comme l'explique Dr Marie-Angélique Sen, responsable du Centre de développement des vaccins à l'Institut Pasteur.
C'est aussi parfois quelque chose de tout bête, comme utiliser des réactifs en poudre qui peuvent être transportés, qui n'ont pas besoin de cette chaîne de froid-là et qu'on peut reconstituer sur site.
Pour l'heure, Dakar n'en est pas encore là. Les premières doses fabriquées par l'Institut Pasteur seront accessibles début 2027, car si la fabrication du vaccin a commencé, il faut ensuite faire les tests cliniques. Quoi qu'il en soit, pour le docteur Marie-Angélique Sen, il y a urgence à fabriquer les vaccins sur le continent.
En dehors du vaccin Covid lui-même, il y a beaucoup de vaccins qui étaient difficiles d'accès, dont rougeole, rubéole. C'est produit principalement en Inde. Il y a eu des ruptures de stock et on a eu pas mal d'épidémies dans différents pays qui ont tué des dizaines de millions d'enfants. Donc l'importance pour nous de récupérer cette plateforme et de la produire ici, c'est d'assurer l'accès à ce vaccin-là aux populations africaines en cas de besoin.
L'Institut Pasteur s'est donc aussi lancé dans la fabrication de vaccins contre le Covid-19 de type ARN messager et travaille à créer un vaccin pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift, maladie spécifiquement africaine. Amadou Sall, virologue et directeur de l'Institut Pasteur, se réjouit de cette évolution.
Depuis 100 ans, on a trouvé le virus de la fièvre jaune ici. On a fait un vaccin. À l'époque, il y avait très peu de locaux qui étaient impliqués. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces vaccins, comme vous avez pu le constater, fait l'objet de développement et de production qui impliquent essentiellement des équipes locales. Pour moi, c'est ça la coopération réussie.
À ce jour, 5 à 8 millions de doses de vaccins contre la fièvre jaune sont produites chaque année par l'Institut Pasteur. Une fabrication sur le continent africain qui doit également aider à lutter contre la méfiance et l'hostilité grandissante face aux vaccins. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 7h49. Le Sénégal dans Afrique Économie à présent, c'est l'une des promesses de campagne des nouvelles autorités sénégalaises, la renégociation des contrats stratégiques, à savoir les contrats pétroliers, gaziers, miniers. Et pour ça, une commission a été mise en place au mois d'août en charge d'examiner les fameux contrats afin de proposer les correctifs nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt national. Car avant de renégocier, des prérequis sont nécessaires. Charlotte Cosset nous explique.
Si la renégociation de contrats est monnaie courante, ce processus doit d'abord s'appuyer sur une commission dont les contours de la mission sont bien définis et qui pourra brosser la réalité de la situation. Aïda Diop, chargée de programme principal au Natural Resource Governance Institute.
Parce que d'aucuns pensent que les contrats du Sénégal ne sont pas bien négociés, mais est-ce que c'est le cas? Que si, par exemple, cette évaluation est faite, c'est ça qui va nous permettre de dire aujourd'hui, OK, les contrats n'étaient pas très bien négociés parce qu'on s'est rendu compte que sur tel aspect lié à la fiscalité, au lieu de faire cela, on devrait faire ça. Sur tel aspect lié au contenu local, au lieu de faire ça, devrait faire cela. Donc, cette évaluation préalable devrait être le fondement même du bien fondé de la nécessité de renégociation.
Autre élément, le bénéfice tant coût de l'engagement d'une négociation, voire d'une procédure, souligne encore Aïda Diop.
Le facteur temps aussi est quelque chose à prendre en compte. Et qu'on sait qu'en général, si on annonce même le souhait de vouloir négocier, ça peut jouer même sur les investisseurs vont faire pour vouloir peut-être attendre d'avoir une plus grande clarté de la perspective. Et on sait que, par exemple, d'après toujours les évaluations, que chaque année de retard a un impact significatif sur, par exemple, les prévisions budgétaires ou bien même, par exemple, la dette, etc.
Mamadou Gakko travaille au sein du cabinet DLA Paper. Il est avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions d'arbitrage international. Pour lui, toute action doit être minutieusement préparée face au risque de voir des procédures engagées par des entreprises qui se sentiraient lésées.
L'État doit faire très attention, naturellement, avant d'initier ce levier-là, parce que dès lors que le contentieux démarre, naturellement, l'investisseur aura aussi des demandes à y présenter et ça peut se retourner contre l'État si la procédure n'est pas très bien préparée en amont. Ces risques sont notamment de subir des procédures d'arbitrage où l'investisseur estime avoir subi une discrimination, par exemple, ou avoir été injustement traité par l'État et que ses droits, du coup, garantis par des conventions internationales n'ont pas été respectés. Et c'est dans ces procédures-là, ces investisseurs peuvent rechercher une compensation de leur préjudice. Et cela peut coûter des millions, voire des milliards à l'État si cette procédure aboutit favorablement à l'investisseur.
Une communication claire et transparente est également nécessaire, selon les deux spécialistes, à la fois pour rassurer les investisseurs, mais aussi gérer les attentes des Sénégalais.
Charlotte Cossé, 8h52, à Paris, musique. La chanson Oworisha du Nigérian Jimmy Solanke pour commencer cette séquence. C'est à découvrir dans la compilation Nigeria Spécial Volume 3 qui vient tout juste de sortir cette compilation. C'est notre choix musical ce matin. Bonjour José Marinho.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors dedans, 19 pépites de pionniers effacés des mémoires publiées dans les années 70 et dans lesquelles, comme le sous-titre de cet album l'indique, l'innovation électronique rencontre la culture et la tradition.
En 1970, le Nigeria sort de la guerre de Biafra et dans la foulée, les artistes entrent dans la modernité culturelle. L'arrivée des nouvelles technologies bouleverse le paysage musical du pays. Synthétiseurs, boîtes à rythme et des styles qui y sont associés, pop, disco, soul, rock et funk, se télescopent avec les genres locaux, afrobeat, joujou music et highlife se trouvent donc matinés de sonorités occidentales comme ici sur ce titre hybride.
Ce morceau Highlife en version dub du chanteur et compositeur Sonny Okosun vante le panafricanisme.
Oui, le panafricanisme, c'est cette vision culturelle, économique, sociale et politique d'émancipation des Africains qu'il défend dans cette chanson. Héros musical et politique, mais aussi militant anti-apartheid, Nelson Mandela l'a même invité à chanter dans sa cérémonie d'investiture de président de l'Afrique du Sud, contrastant complètement avec l'instrumentation de l'époque, sa musique est dominée par une utilisation de l'électronique qui étonne encore aujourd'hui.
Et à l'époque, le Nigeria confirme son statut de vivier musical majeur de l'Afrique de l'Ouest.
Ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1960, a vu l'effervescence musicale la gagner après le boom pétrolier une décennie plus tard. Les illustres inconnus de cette compilation, parmi eux, on trouve...
A Black Man Akil Karim.
Ce chanteur et compositeur explore cette nouvelle esthétique musicale importée qu'est le funk, fraîchement débarquée dans les boîtes de nuit d'Afrique de l'Ouest. Il enrichit les rythmes de Yoruba, de machines, guitares, électriques et effets sonores qui renouvellent les traditions nigériennes. Et sa chanson,
Oya-a,
fit l'effet d'une petite bombe. Écoutez.
Et c'est de cette profusion de genres dont on parle et qui est née la compilation Nigeria Spécial Volume 3 que publie le label britannique Soundway Records.
À l'heure des chansons numériques et téléchargées à l'infini, les Anglais se concentrent plutôt sur les répertoires anciens dans ces contrées fertiles en musique, mais peu réputées pour la conservation de leur patrimoine culturel, rompus à une solide discipline d'archéologie musicale depuis 2002. Ils renouent ici avec leur passion du groove d'Afrique anglophone et participent à cette redécouverte de trésors inédits qui écrivent l'histoire de la musique nigériane moderne en marge de vedettes comme Fela.
La compilation Nigeria Spécial Volume 3, c'était notre choix musical ce matin sur RFI. Merci José Marinho.
Merci à vous.
Et à bientôt sur tout RFI Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Dans deux minutes, le journal international suivi d'appel sur l'actualité. Bonjour Juan Gomez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Et avec les auditeurs d'RFI, vous parlez foot aujourd'hui.
Oui, et qui sera sacré meilleur joueur africain de l'année? En tout cas pour la première fois, la Confédération africaine de football a décidé de maintenir en course 5 finalistes au lieu de 3. De quoi entretenir donc le suspense jusqu'à ce soir, jusqu'à la cérémonie des CAF Awards. Alors qui décrochera le titre? Ça devrait jouer entre le Nigérian Lookman et le Guinéen Guirassy, mais peut-être que l'Ivoirien Adingra créera la surprise, ou le Marocain Hakimi, ou pourquoi pas le Sud-Africain Williams. Vos pronostics en direct dans 10 minutes sur RFI. Andréane, bonne journée.
Bonne journée,
vous
Juan.
Vous revenez évidemment demain matin. Restez avec nous dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les femmes deux fois plus touchées par la dépression que les hommes.
Demain,
reportage à Lyon à l'occasion de l'inauguration de l'Académie de l'OMS.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Chantal Leroux.
Matthew quitte un beau jour Montréal pour rentrer à Winnipeg où il est né, mais par un curieux bouleversement de l'espace-temps, sa ville natale est devenue persane et tout le monde y parle désormais le farsi. Une langue universelle est une fable absurde, drôle et touchante. Son réalisateur Matthew Rankin est notre invité.
Les langues s'expriment, de vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
RFI Talent présente Gabriela Lima. Découvrez Seme Chamarevu, le premier single de l'artiste brésilienne avec Vanille en invité. Disponible sur toutes les plateformes.